histoire de...
Monsieur Mester, vous aviez, si je ne me trompe, 9 ans, lorsque, dans le petit village alsacien où vous habitiez, vous avez été mordu par un chien enragé.
Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah, c'était le bon temps au pays de Pasteur. Le temps où l'on faisait confiance aux hommes de science, où l'on ne rechignait pas à se faire vacciner. Enfin, le bon temps, en est-on certain. L'homme que vous venez d'entendre, Joseph Meister, fut en effet le premier à se faire vacciner contre la rage en 1885, et cela lui sauva la vie. Une vie qu'il passa justement comme gardien de l'Institut Pasteur. L'enregistrement date de 1939. Un an plus tard, désespéré par la défaite française, il se donnait la mort. Alors, même les vaccins, c'était mieux avant ? Reconnaissez que cette idée est étrange. Face à une maladie nouvelle, comme la Covid-19, provoquant une épidémie mondiale d'une stupéfiante brutalité, la réponse scientifique a été d'une rapidité également stupéfiante. On craignait que le vaccin ne soit pas développé à temps. Il est là, innovant, remarquablement efficace. 6 milliards de doses ont été injectées dans le monde et pourtant, on n'a jamais autant parlé des antivax. Alors, qui a peur de quoi ? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui avec l'historien des sciences Guillaume Lachenal, bientôt rejoint par nos deux sociétaires du jour, Adila Benedjaizou et Arlette Farge. Vous connaissez le principal argument des adversaires de la vaccination. On n'a pas assez de recul. Eh bien, ça tombe bien. C'est notre métier à nous de prendre du recul. Allez hop, on se lance. Guillaume Lachenal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, vous menez des recherches au Media Lab de Sciences Po sur les épidémies, sur la santé globale, notamment en contexte colonial. Dans la chronique historique que vous donnez au journal Libération tous les mois, vous vous interrogez sur ces prétendues lois de l'histoire. Ça sert à quoi en temps d'épidémie d'être un historien de l'épidémie ?
Alors je sais pas si ça sert à quelque chose et ça peut même être un obstacle. Ce que je pense qui était compliqué avec cette épidémie, c'est d'arriver à se rendre compte qu'on n'y comprenait rien ou pas grand chose et que c'est une histoire, et je le pensais au début, je le pense encore, dont on connaît pas la fin. On sait pas comment ça va finir, on sait pas quand ça va finir. Et l'histoire, c'est quand même souvent une histoire dont on connaît la fin.
Oui.
Et c'est pour ça que c'est pas forcément utile de se rattacher à ces histoires déjà refermées, à ces chapitres déjà écrits, pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Et le risque, c'est justement, comme vous l'écrivez, que de penser que finalement c'est quelque chose de connu qui va revenir, comme par exemple, on en parlait à l'instant, la crise H1N1 de 2009, alors que tout autre chose advient.
Oui, je crois qu'après, tout le monde s'est rendu compte à quel point cette pandémie bousculait de certitudes sur les relations Nord-Sud, par exemple, au début, où c'était soudainement le Nord qui se découvrait plus vulnérable que les pays du Sud. Donc on a des certitudes comme ça qu'on vacillait.
Dans le médicament qui devait sauver l'Afrique, qui est paru en 2014, vous enquêtez sur une expérience malheureuse d'éradication de la maladie du sommeil, en fait, en Afrique, par l'administration autoritaire d'un médicament, la lomidine, qui s'avéra très dangereux. Et au fond, vous faites l'histoire, Guillaume Lachenal, de ce que vous appelez la bêtise coloniale, qui est une forme de déraison, non pas de défaut de la raison, mais d'une raison qui ne s'arrête pas. Au fond, c'est-à-dire, vous l'écrivez, la bêtise comme exercice excessif, mais actif, confiant, déterminé, inébranlable de la raison. Vous pouvez nous raconter cette histoire fascinante ?
C'est l'histoire d'un programme d'éradication qui s'appuyait sur un médicament qu'on qualifiait souvent de vaccination, parce que c'était un médicament préventif en le donnant par injection à la totalité des populations qui étaient concernées par la maladie, dans des régions entières, des plus petits aux plus grands. Et c'est un médicament qui marchait pas mal initialement, Mais on dirait aujourd'hui que son rapport bénéfice-risque était pas très bon. Aujourd'hui, c'est un médicament qu'on utilise toujours, mais qui est un médicament très dangereux. Et plus on avançait vers l'éradication de l'épidémie, plus les risques, évidemment, étaient élevés, rapportés aux bénéfices escomptés. Et donc, c'est ça que je qualifie de bêtise, c'est cette volonté de conclure, comme disait Flaubert, cette volonté d'aller chercher le zéro, l'éradication, qui va se révéler très coûteuse dans les dernières années de ces programmes, puisqu'on va avoir des accidents dramatiques dans plusieurs villages d'Afrique.
Et donc c'est de cela dont on doit parler, Guillaume Lachenal, en matière de vaccination ou d'hésitation vaccinale, même si on sait qu'on a raison, que le calcul, d'une certaine manière, conforte la santé publique, eh bien on ne doit pas se faire une croyance excessive dans les qualités de son propre raisonnement.
Oui, alors c'est, la remarque peut être adressée d'ailleurs aux deux pôles de la controverse. Et c'est vrai que ce qu'on voit en ce moment, c'est certainement pas un déficit de science ou une crise de la vérité ou de la rationalité, mais c'est au contraire un excès de science, de rationalité des deux côtés.
Oui.
Les antivax sont tous, sauf des ignorants qui ignorent la science. Au contraire, ils jouent aux scientifiques en raffinant leurs arguments, en allant découper ici et là les articles scientifiques qui collent avec leurs arguments. Donc on est plutôt dans une situation d'excès, excès de science, excès d'histoire aussi d'une certaine manière, puisqu'on convoque le passé à tour de bras.
Et on le convoque même le passé récent, par exemple en 2009, la crise H1N1, c'est un grand échec de la vaccination. On attendait 75% de la population vaccinée, il n'y a que 9% des Français qui l'admettent, parce qu'il y a effectivement un effet indésirable qui est très rare mais très grave, le syndrome Guillain-Barré. Et vous l'écrivez au fond, l'erreur de santé publique, il y a quelques mois, c'est d'avoir craint que ça recommence, justement. On a eu peur de cette peur, on a pensé que parce que les Français avaient refusé le vaccinodrome en 2009, ils le refuseraient en 2020, et ben là, les leçons de l'histoire sont tombées à côté.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu finalement, une adhésion qui est assez forte, en tout cas en France métropolitaine, pour le vaccin. On a donné beaucoup de crédit à des sondages d'opinion. Et ça aussi, c'est quelque chose que les historiens et les historiennes essayent de faire, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et l'histoire de la santé publique en France est marquée aussi par cet excès de discours et de mots. Un historien américain de la santé publique, Peter Baldwin, dit que en santé publique, la France est un chien qui aboie fort, mais qui mord rarement.
D'où ça vient d'ailleurs cette idée que la France, le pays de Pasteur, serait rétif à la vaccination? En fait, vous travaillez avec Gaëtan Thomas qui a montré qu'au fond, il y a une sorte de routine vaccinale jusque dans les années 90, jusqu'au problème de l'hépatite B, d'une vaccination obligatoire dans les collèges, et que jusque-là, ça se passe bien, et que d'une certaine manière, aujourd'hui, avec plus de 80% de couverture vaccinale, ça se passe bien. Ça vous surprend, la situation aujourd'hui? Quelle est votre...
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une sorte de panique morale qui est récente, puisque la France n'est pas le grand pays de l'antivaxionniste.
Oui.
N'est pas ce pays-là au 19e siècle, elle l'est pas pendant la première partie du 20e siècle. Alors, il faudrait aussi élargir la focale à la France coloniale, là où les situations sont plus tendues dès le début du 20e siècle. Et donc, c'est une panique morale qui est récente, qui date de la fin des années 80, des années 90, un moment où se transforme aussi la vaccination, qui devient une marchandise dans un contexte où la médecine et la santé publique se transforment aussi. Cette inquiétude, elle est récente.
Oui.
Et elle est largement exagérée, oui.
Justement, puisque vous êtes un historien de la médecine coloniale et post-coloniale, il y a un rapport quand même entre le vaccin et la France-Afrique. On parlait de l'hépatite B de 94. Le vaccin avait été testé au Sénégal, mais on l'avait pas mis à disposition des populations sénégalaises, précisément parce qu'il était trop cher. Dans la carte aujourd'hui des résistances, il y a quand même 8 millions de Français, plus de 12 ans, qui ne sont pas vaccinés et un tiers sont des populations à risque. C'est très inégalement réparti. Et puis, il y a la question, effectivement, des Antilles, de la Martinique. Et là, je pense que comme historien de la médecine en situation coloniale, vous reconnaissez quelque chose, une leçon de l'histoire, malgré tout.
Une leçon de l'histoire qui est d'abord celle de territoires qui sont des anciennes colonies, hein, où la médecine et la santé publique étaient pour l'essentiel peu présentes. C'est d'abord ça, l'histoire coloniale de la médecine, c'est l'histoire d'une négligence, et qui fonde aussi une relation qui sera souvent difficile et tendue. C'est la relation coloniale dont parlait Frantz Fanon, une relation qui est toujours un drame, en fait, parce que cette rencontre entre le médecin et le patient est toujours façonné par une double contrainte, où le patient, en acceptant la médecine ou le vaccin, soit reconnaît la supériorité de la tutelle française et coloniale, soit en le refusant, confirme au médecin qu'il est bien l'arriéré et l'ignorant dont les médecins coloniaux parlent. Et cette double contrainte tragique, je pense, oui, qu'elle a façonné les systèmes de santé et les relations dans ces territoires aussi.
L'histoire des antivax, ou en tout cas de la résistance ou de l'hésitation vaccinale, on se rend compte qu'en longue durée, c'est plutôt une résistance contre les lois d'obligation vaccinale. Au fond, c'est une résistance contre l'autorité. En 1804, le chimiste Chaptal, qui était aussi ministre de l'Intérieur de Napoléon, disait triomphal, la vaccination est le résultat de la perfection qu'a acquise la science du gouvernement. Alors cette science est perdue aujourd'hui ?
Alors cette science c'est pas mal réinventée, et il y a beaucoup de commentaires sur le rôle de ce qu'on appelle l'économie comportementale, des fameux nudges qui nous gouvernent sans qu'on le sache, etc. Et le pass sanitaire est souvent pris en exemple de cette nouvelle gouvernance, en fait, qui nous amène comme des moutons à la vaccination sans qu'on le veuille vraiment ou sans qu'on l'ait vraiment choisi. Et donc la gouvernementalité, la science du gouvernement, l'art de nous conduire, s'est réinventé et fonctionne pas trop mal d'un point de vue de santé publique.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Ah bah vous êtes là, Arlette Farge, vous avez pas vu venir. On va parler avec vous après la pause musicale des origines de cette histoire de la variole, des premières vaccinations. Ça commençait mal parce qu'en fait celle qui l'a amenée, c'était une femme, et qui plus est, elle venait de l'Empire ottoman, c'est ça?
Oui, ça commence mal. C'est une femme, Lady Montagu, qui est en fait la femme de l'ambassadeur britannique à Constantinople. Donc, on sait très bien d'ailleurs que la variole avait commencé dans l'Empire ottoman et qu'il y avait déjà quelques solutions à apporter. Mais elle, c'est elle qui, en rentrant en Europe et en France, va pour la première fois parler justement de l'inoculation, de cette chose absolument inouïe, c'est-à-dire de mettre du pu d'un malade dans quelqu'un qui n'est pas du tout malade. Et donc, effectivement, c'est un débat énorme au XVIIIe siècle, mais qui concerne pas tout le monde, je le dirai tout à l'heure.
On en parle tout à l'heure. I need to love when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. A demon, baby. When it comes, like my oldest friend, have you got a friend? Toujours en compagnie de Guillaume Lachenal, rejoint par nos deux sociétaires du jour, Adila Benedjaizou, bonjour.
Bonjour.
Et Arlette Farge, qu'on a déjà entendu. Nous allons tenter de régler la focale pour comprendre la campagne de vaccination actuelle, son rythme, ses succès et ses échecs. Jusqu'où faut-il aller? Alors, le 18e siècle. Bon, la maladie du 18e siècle, c'est la variole. Il y a 10% de la mortalité du 18e siècle. C'est terrible, hein?
Terrible.
Et quand
terrible.
On meurt pas, on est défiguré.
Et en général, on meurt, absolument. Donc, de toute façon, le temps, d'ailleurs, c'est un débat qui va être très vif, très vivant, mais le temps qui s'installe, il faut le situer à peu près au milieu du 18e siècle, oui. Parce que il faut... bon, elle arrive, en effet, la dit Montagu en 1721, mais bien sûr, ça va pas tout de suite fonctionner comme ça. Mais d'abord, cette femme, elle a un courage assez fou, et un an après, en 1722, elle inocule son fils. Ça représente un courage extraordinaire parce qu'on sait quand même encore rien. Et ce que je trouve très très intéressant, c'est que je trouve que ça, je voudrais pas que ça résume les Lumières, mais c'est un peu la métaphore des Lumières parce que il y a quand même quelque chose qui est, il y a le progrès. Bon, ça serait du progrès évidemment de vacciner, mais c'est aussi contre la nature. C'est pas tant au sens religieux du terme, contre la nature, c'est-à-dire enfoncer dans un corps sain. Quelque chose qui vient d'un corps malade, mais malade jusqu'à la détérioration totale de son visage et de son corps, ça aussi, ça fait partie. Donc c'est un débat qui va toucher évidemment les philosophes et qui va être plus un débat philosophique souvent qu'un débat médical au sens propre comme on l'entend aujourd'hui.
Oui, mais Arlette Farge, vous dites il faut du courage. Et de fait, la vaccination, elle est aristocratique parce que c'est aussi un exploit d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on va, dans le procès des Lumières et des Anti-Lumières, on va dire, bah oui, mais c'est du libertinage, c'est de l'élitisme. Alors, comment ça se distribue les arguments?
C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, effectivement, quand ça arrive sur place, d'une part, c'est une femme, en plus, c'est l'Empire Ottoman, c'est les barbares. Et en même temps, c'est effectivement quelque chose qui demande un courage absolument extraordinaire, parce que vous allez toucher un de votre enfant sans savoir s'il va en mourir ou s'il va en guérir. Donc c'est quand même bon. Vous dites ça touche les libertins. C'est pas tant... Enfin, ça va doucement. Ça peut pas toucher les classes pauvres, parce que de toute façon, elles, vraiment, leur nécessité, c'est survivre. Donc ils vont pas. C'est pas tant qu'ils n'ont pas d'instruction, qu'ils savent pas, etc. C'est que eux, ils sont occupés à survivre. Et ça, c'est très important. Donc c'est plutôt justement, ça va se passer dans la sphère effectivement plus aristocratique ou tout du moins vraiment mondaine. Et puis tout d'un coup, et moi j'ai relevé cette phrase dans le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Tout d'un coup, cette inoculation va triompher. Et il va dire, au milieu de son petit discours sur l'inoculation, quel triomphe, enfin, on sauve la vie et la beauté des femmes. Et pourquoi la beauté des femmes? Mais c'est parce que on discute dans le monde aristocratique et même dans les salons de cette horrible façon qu'ont les femmes d'être horriblement défigurées. Je ne veux pas vous lire des textes qui sont atroces là-dessus. Et en même temps, préserver la beauté des femmes correspond tout à fait à ce qu'on donne dans ce siècle qu'on a dit des femmes, comme rôle aux femmes. Il faut qu'elles soient belles. D'ailleurs, de toute façon, dans le débat, elles n'écriront jamais, bien sûr, mais elles feront. Elles seront les mères et elles seront les femmes qui voudront absolument... Alors, très bizarrement, et je termine là, très bizarrement, elles vont inoculer leurs filles, tout ça dans un danger absolument terrible, et ne pas inoculer leurs garçons.
Oui.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument impressionnant. Mais elles sont déchirées, le cœur déchiré. Elles disent, le cœur, suis-je un bourreau ou suis-je quelqu'un qui sauve la vie d'un enfant?
Alors, on est bien d'accord, Guillaume Lachenal, que là, on parle de variolisation, c'est-à-dire de l'inoculation de la maladie lorsque on ne l'a pas encore contractée. Et donc, c'est un geste volontaire fort. Donc, ça n'a rien à voir avec la vaccination qui, au sens propre, apparaît en 1796 lorsque le Britannique, le médecin Edward Jenner a l'idée d'inoculer non pas le pu variolique dont vous parliez, Arlette, mais des vésicules de vaccine. C'est-à-dire de la maladie de la vache.
Oui, il adapte en se rendant compte de la familiarité entre les deux maladies et d'un phénomène d'immunité croisée, en fait, entre la vaccine et la variole. Mais l'inoculation, moi, j'ai un autre récit qui est intéressant parce qu'il montre aussi l'importance de ces focales et de l'élargir. L'histoire mondiale de l'inoculation, elle précède largement Lady Montagu et la petite histoire européenne et des querelles de l'inoculation. C'est que c'est une pratique qui est répandue dans le monde entier et en particulier en Afrique et en particulier dans la diaspora africaine des esclaves, notamment en Amérique du Nord. Un pasteur américain, Cotton Mather, rapporte à la Royal Society avant Lady Montagu que ses esclaves lui ont appris une technique qui préserve de la variole et qui est une technique d'inoculation que les esclaves avaient amenée entre eux. Donc ça montre qu'il y a une histoire souterraine aussi de l'inoculation qui est prise dans d'autres lectures, d'autres rituels, qui est absolument fascinante.
Et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous parliez, Arlette Farge, des débats sur ce qui engage au fond l'idée de lumière, mais les lumières cherchent aussi à comprendre ce qui leur résiste. Et il y a un opuscule mathématique d'Alembert en 1761 qui est intéressant parce qu'il se pose la question du calcul. Il écrit « On court moins le risque de mourir en un mois de la petite vérole naturelle qu'on attend que de la petite vérole qu'on se donne ». Donc il énonce la règle d'une théorie subjective de la valeur qui fait que finalement il y a toujours une préférence pour le présent, a dit la Benedjaïzou. D'une certaine manière, c'est, on voit bien qu'il y a des arguments qui viennent de là, de ce premier moment où on calcule individuellement les risques et que à tout prendre on préfère ne pas en prendre maintenant.
Tout à fait. Pourtant, moi, j'ai un exemple de gens qui n'ont pas fait ce calcul de risque et qui ont fait le calcul contraire. Je les ai rencontrés dans un documentaire brésilien qui va bientôt être diffusé en France, en tous les cas, je l'espère, qui s'appelle Voluntario ou Volontaire 1864. Ce documentaire, il raconte l'histoire de quelques Brésiliens qui se sont portés volontaires à l'été 2020 pour tester les différents vaccins contre la Covid-19. Et ce sont des personnes qui prennent le risque de perdre leur santé sans aucun espoir de gain certain, puisque on ne sait pas si ces vaccins sont au point et vont combattre la maladie. C'est un film qui est assez bouleversant. Les gens se filment avec leur téléphone parce qu'ils sont dans un confinement terrible, donc ils sont seuls, chacun chez eux, en train de tester ces molécules dans un contexte national assez hostile. Bolsonaro est absolument contre les vaccins. Et ils disent très simplement qui le font pour l'humanité. Ils disent, moi, je veux faire partie des gens qui ont fait tout pour que ça change. Et si on y arrive avec les vaccins, je serai très fière de moi. C'est d'une humilité et d'une mégalomanie bouleversante. Et je trouve ça d'autant plus fort quand on compare à ce qu'on vit, nous. C'est-à-dire que, en réalité, les gens, quand on leur donne le choix, en leur expliquant ce que sont les risques, ils peuvent faire un choix qui n'est pas le choix d'un assureur de risque immédiat ou de risque lointain. Oui. Ils font le choix de risquer beaucoup pour ne rien gagner.
D'où l'idée peut-être, Guillaume Lachenal, de distribuer les capacités rationnelles de manière plus équitable et plus généreuse de part et d'autre de ces oppositions de principe. La condamine d'ailleurs pour prendre toujours, c'est celui qui en 1761 je crois, non un petit peu avant, 1700 dans les années 50, à l'Académie des sciences, présente, mais comme un géomètre des passions, a dit là, justement, comme quelqu'un qui pense que on va de toute façon prendre nécessairement le parti le plus rationnel, et il critique le jugement du public frivole et superficiel où tout se traite en conversation. Et comme l'a montré Jean-Baptiste Fressoz, d'une certaine manière, cet argument de la frivolité de la conversation du salon aristocratique, on le retrouve aujourd'hui dans la critique des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on serait incapable au fond de comprendre la raison des vaccins parce qu'on a le nez dans nos téléphones.
Cette inquiétude sur la désinformation et les réseaux sociaux reformule peut-être cette peur de la conversation publique qu'on retrouve beaucoup dans les situations coloniales autour de la peur de la rumeur. Et l'État colonial se sent toujours menacé par la conversation et la rumeur sur les vaccins ou sur les médicaments. Et ça a laissé énormément d'archives, en fait, cette science des rumeurs, et qui est aussi une surveillance.
Alors la variole a été éradiquée en 1980 grâce à une campagne de vaccination massive conduite par l'OMS. C'est d'ailleurs une des rares maladies qui a été complètement éradiquée. Et donc on a pu croire que l'idée même de maladie infectieuse appartenait au passé ou au loin. On appelait les maladies infectieuses et tropicales. Et tout change évidemment avec les années sida qui déstabilisent la santé publique, qui fragilisent la confiance des populations dans la science médicale. Pourquoi ? Ben parce que les malades deviennent les premiers experts de leur maladie. Écoutez cet extrait du très beau film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui revenait en 2017 sur l'histoire militante d'ACT UP au début des années 90.
Alors, il y a quelques semaines, on a voté une action contre le laboratoire Melton Farm, qui refuse toujours de nous donner les résultats des essais de toxicité de son antiprotéase. Alors, l'antiprotéase, c'est une molécule antirétrovirale dont on ne connaît pas grand-chose pour le moment. Et ben depuis, c'est toujours silence radio de leur côté.
Ce qu'on a compris, en fait, depuis, c'est que les mecs de chez Melton Farm attendent la prochaine conférence mondiale sur le sida pour annoncer ses résultats. Or, la prochaine conférence, elle a lieu à Berlin dans un an. Donc autant dire qu'ils en ont rien à foutre de nous.
Voilà, donc l'idée, c'est d'aller chercher directement les résultats nous-mêmes au laboratoire et de voir un peu ce qu'ils vont nous répondre.
Tous les gens qui veulent participer aux apps, lèvent la main histoire qu'on se fasse une petite
vidéo. Viens, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît. Regardez, il y a même des nouveaux qui viennent. Franchement, pour une fois qu'un labo propose une nouvelle molécule, on pourrait être plus nombreux.
Ah, regardez, même notre présidente sera là, c'est merveilleux. Ouh.
Romain Campillo et Philippe Mangeau, qui est co-scénariste de ce magnifique film, a dit là, il y a quelque chose qui change radicalement dans ces années 80 et 90.
Et oui, puisque au début de l'épidémie de sida, les médecins avouent qu'ils n'y connaissent rien, et un médecin qui n'y connaît rien, on s'autorise beaucoup plus à lui désobéir. Et d'ailleurs, ça a un nom en médecine, ce comportement du malade désobéissant, ça s'appelle la non-compliance. Oui. Alors, c'est une histoire que raconte très bien Steven Epstein dans sa très belle histoire du sida, le volume 2 s'appelant
La grande révolte des malades.
Exactement. Et il porte bien son nom parce qu'il raconte très bien comme les premiers malades du sida n'ont pas du tout été des malades obéissants, ni à leurs médecins, ni même pour des recherches médicales. C'est-à-dire que, par exemple, dans les premiers tests sur la ZT, on sait que les malades recrutés, eh bien, ils ouvraient leurs pilules pour goûter la poudre qu'il y avait à l'intérieur et savoir s'ils prenaient vraiment de la ZT ou s'ils faisaient partie du groupe placebo. Évidemment, les chercheurs en charge de ces protocoles étaient horrifiés et les malades leur répondaient, à juste titre, je le pense, que quand on est au bord de mourir d'une maladie qu'on ne connaît pas, faire partie d'un groupe placebo, c'est insupportable et c'est même éthiquement assez contestable d'organiser de tels tests. Eh bien, cette désobéissance des malades du sida, on sait qu'elle a eu énormément de conséquences. Elle a vraiment modifié le rapport des patients et de leurs médecins. Elle a modifié aussi la manière dont on fait de la recherche médicale. Elle a fait pression sur des labos pharmaceutiques sans toujours réussir, mais elle a quand même réussi à changer la donne. Sur la question, par exemple, de la lomidine ou pentamidine, on sait qu'elle a été beaucoup utilisée dans le traitement du VIH, et elle a été autorisée, c'est le premier médicament qui est autorisé à entrer sur le marché, non pas après des tests de laboratoire, mais des tests d'un collectif de malades qui d'ailleurs ne fait pas de groupe placebo à l'intérieur de son protocole.
Et on sait qu'une des difficultés aujourd'hui de la création de nouveaux vaccins, c'est qu'on ne trouvera plus de groupe placebo pour accepter de ne pas se faire vacciner par des vaccins qui marchent normalement si bien. Guillaume Lachenal, ce sont des années qui sont déterminantes, y compris du point de vue générationnel, puisque finalement, tous les professionnels de la santé publique en France, commencé par le professeur Delfraissy, sont nés de là, si j'ose dire, c'est-à-dire de cette critique du pouvoir médical.
Oui, les acteurs sont nés de là, et d'ailleurs ça a été un défi, une difficulté de rattacher l'expérience du Covid-19 à l'expérience du sida, avec notamment, on s'est mis à chercher quel est le public de ce Covid-19, où sont les patients activistes finalement qui sont devenus dans le VIH des interlocuteurs hyper importants de la lutte, et dans le cas du Covid-19, ce public il est un peu introuvable. Ou alors, il s'agit de minorités, à la fois en termes d'âge et puis des minorités sociales, ethniques, etc., qui ont moins la parole, peut-être, ou savent moins bien la prendre que les activistes de la génération sida.
Et puis, ils n'ont pas non plus le temps, souvent, de devenir des experts de leur propre maladie, voilà. Comme on l'a très bien entendu dans ce film, Adila.
Tout à fait. Il faut dire aussi que même dans la lutte contre le sida, l'activisme qui s'est concentré sur la recherche médicale, c'était l'activisme d'une élite. Il y a même eu des conflits entre des malades du sida qui ne venaient pas d'élites blanches, bien informées, bien éduquées, et qui avaient d'autres revendications.
Bon, mais vous ne renoncez pas, Arlette Farge, à trouver dans cette question un problème des Lumières, parce que d'une certaine manière, l'argument notamment de la dégénérescence, on voit très bien qu'il passe des opposants à la variolisation aux anti-pasteuriens. D'une bien certaine sûr. Manière, ce qui est en jeu, c'est quand même l'idée de progrès.
Bien sûr, mais ce que je voulais dire avant, c'est qu'il y a quelque chose de différent fondamentalement de ce dont vous parlez, vous, et aussi à propos du sida, c'est que c'est pas le médecin qui va inoculer, presque jamais. C'est quelqu'un de la famille, c'est un membre de la famille. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui demande matière à réflexion. Et sur ces événements, qui vont concerner les classes les plus aisées, ce sont des débats, des correspondances. Alors là, on travaille pas sur des textes de médecins. On a des archives qu'on peut retrouver comme ça, même par hasard, avec une lettre qui a été envoyée à une amie ou à quelqu'un, où la femme ou l'homme explique qu'est-ce qu'il a fait et comment il a fait. J'avais lu qu'on ne savait pas la parole des gens malades ou impliqués par la maladie. Mais en tout cas, au 18e, on a cette chance de la trouver, cette parole. Et moi, je ne sais pas si on la trouve si bien, en tout cas dans le Covid-19, malgré la médiatisation, la télé et tout ça. Celui qui a eu le Covid, il en parle après, mais celui qui est mort, évidemment, il n'en parle pas. Mais voilà.
Bah, disons, oui, les maladies aussi sont biologiquement tellement différentes. Et en un sens, ça nous amène à une hypothèse qui intéresse beaucoup historiennes et historiens en ce moment, c'est que c'est le virus qui produit aussi une politique, qui produit une forme de récit, etc. Et qu'au final, c'est ses caractéristiques et son comportement qui produit tout ça.
Donc là encore, il faut déshéroïser cette histoire de la vaccination et de l'anti-vaccination. D'ailleurs, tout à l'heure, on disait Guillaume Lachenal au pays de Pasteur, mais le grand homme de la vaccination en France, c'est pas Louis Pasteur, c'est Robert Debré.
Oui, Robert Debré, qui est un grand médecin du milieu du XXe siècle,
pédiatre.
Grand mandarin, grand pédiatre, qui a...
Comme Alain Fischer, d'ailleurs.
Voilà, et grand entrepreneur de la vaccination, et un entrepreneur à la fois extrêmement efficace et discret, puisqu'il va inscrire la vaccination dans la banalité, en fait, du soin. Et Robert Debré, c'est aussi une figure franco-africaine. Son poids est aussi lié à son travail de coopération avec les nouveaux États indépendants, dans ce qu'on appelle de façon critique la France-Afrique, mais bon voilà, dans cette plus grande France gaulienne. Et là, ça nous rappelle aussi que l'histoire, finalement, il n'y a pas d'histoire de la santé publique ou d'histoire de la médecine en France sans penser à la dimension africaine. Et aujourd'hui, penser à Delfrécy ou penser à Raoult, c'est aussi des figures qui ont énormément travaillé dans ce précaré français, et Raoult en est l'héritier direct par son père aussi.
Et d'ailleurs, le fils de Robert Debré, c'est Michel Debré, le premier ministre du général de Gaulle et le père de la Ve République. Donc c'est quand même de bout en bout une histoire de pouvoir, de domination, d'infantilisation aussi. On l'a entendu au début avec le générique. On va écouter, pour terminer, une sorte de fictionnalisation en 1935 par Sacha Guitry de ce rapport paternaliste entre le médecin vaccinateur et l'enfant qu'il sauve. Écoutez, je suis pas sûr que ça soit très drôle, mais c'est instructif.
Et qui es-tu donc, mon petit ?
Mais je suis Joseph Mester.
Tu n'es pas malade, j'espère ?
Mais non, monsieur Pasteur, au contraire.
En somme, tu viens me montrer comme tu vas bien.
Oui.
Ah, merci. C'est mon petit, vous vous souvenez ? Le premier que j'ai... Que nous avons sauvé. Montre-moi tes mains. Oh, on ne voit presque plus rien. C'est fini, là, il était si courageux, ce pauvre petit. Tu vas en classe, oui ?
Oui, monsieur Pasteur.
Ah, il faut. Il faut que tu deviennes un petit garçon très intelligent, n'est-ce pas ? Il faut que tu me fasses honneur. Tu me dois bien ça. Tu sais, n'est-ce pas, ce que tu me dois ?
Maman m'a dit, monsieur Pasteur, que je vous devais la vie.
Oh, que ces mots sont beaux dans cette petite bouche. N'est-ce pas que c'est beau d'entendre ces mots-là ? Cet enfant me doit la vie.
Ça vous a touché, hein, Adila Benedjaizou, Arlette Farge, Guillaume Lachenal. Merci. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier, réalisée par Xavier Pestugia. Il y avait aujourd'hui, à la technique, Henri Bérec.